Vous écoutez RTL.
Bernard Mabie, vos premières radios de France.
Curiosité est un vilain défaut.
Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous annoncer que pour le Salon International de la Plongée Sous-Marine, je vais sortir en exclusivité le nouveau livre qui s'appelle Glacéo.
RTL.
C'est un peu un hommage au monde de la glace.
Jusqu'à 22h.
Il y a quelques textes où j'explique pourquoi j'aime ce monde.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Notre invité ce soir aime voir le monde d'en dessous. Il n'a pas peur de briser la glace. Bonsoir Alban Michon.
Bonsoir Sidonie, bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Vous êtes plongeur et aventurier des glaces. Quel programme? La banquise arctique du pôle Nord, les profondeurs du lac Baïkal, les icebergs du Groenland. Tout ça, c'est votre monde, un monde très poétique, un peu effrayant pour nous. Plongeur sous glace, comment est née cette passion, Alban Michon?
Alors en fait tout ça c'est né tout petit, moi j'ai commencé la plongée à l'âge de 8 ans et je suis originaire de Troyes. Et en fait quand j'ai commencé en piscine et puis j'ai pratiqué la plongée dans les lacs, les rivières de la région. Et puis après avec des amis on partait en Côte d'Or, dans le coin, faire de la plongée souterraine. Et je me suis aperçu que ce que j'aimais, c'était bien sûr la plongée, mais j'aimais aussi le cadre extérieur.
Le décor.
Le décor, voilà. Et puis, il y avait tout ce que je voyais sous l'eau, c'était aussi un monde où il n'y avait pas forcément beaucoup de poissons, pas forcément, il n'y avait pas d'épaves, des choses comme ça, mais il y avait des jeux de lumière, c'était des couleurs, c'était un relief. Et ça, ça m'a vraiment plu. Et donc, c'est ce qui m'a plu vraiment dans ces plongées un peu atypiques.
Et la glace, alors, c'est quoi votre rencontre et votre coup de cœur et votre amour pour la glace ?
Alors, en fait, la rencontre avec la glace s'est faite le 31 décembre, je me rappelle. Hein. Non,
c'est donc un coup de foudre.
C'est précis. C'est un coup de foudre. C'était 31 décembre 98, où j'ai un ami qui avait un petit lac chez lui et qui m'a dit, viens, on va faire de la plongée sous glace. Mon lac, il est gelé. Et donc, on a pris une tronçonneuse et on s'est mis.
Ils sont sympas, vos amis.
Ouais. Je sais pas, ça se trouve, ils m'en voulaient. Je sais
faut
pas.
Faut nous les présenter.
Et j'ai trouvé ça fabuleux. C'était une plongée de nuit, d'ailleurs. On n'avait même pas pris l'apéro avant. De suite, on s'est mis à l'eau et on a éclairé la glace avec le phare et ça scintillait dans tous les sens et je suis tombé amoureux.
Alors évidemment, nous, quand on pense plonger sous la glace, on pense risque. Est-ce qu'il y a plus de risques? Est-ce que c'est plus dangereux?
Alors moi, je ne pense pas du tout risque et je ne pense pas du tout que ce soit beaucoup plus dangereux qu'une autre activité parce que ce qu'on fait, c'est quelque chose de très sécurisé. Alors bien sûr, il y a des choses à respecter, hein, c'est comme tout.
Alors quelles sont les précautions à prendre justement, Alban Michon, quand on décide d'explorer l'eau et de passer sous la glace, de plonger sous la glace?
La première des choses à faire, c'est déjà de plonger avec un fil d'Ariane, une corde qui nous relie à l'extérieur. Ça, c'est primordial. Sinon, ça s'appelle jouer avec la roulette russe. Mmh. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, à partir de ce moment-là, on a différentes techniques pour bien accrocher la corde et puis aussi faire des trous suffisamment grands pour pouvoir sortir plus rapidement éventuellement. Mais voilà, tout le reste après, c'est qu'accessoire.
La priorité. Vous creusez un trou, c'est ça, dans la glace, un petit trou, c'est ça, et vous glissez dans ce trou, et donc ça veut dire qu'après vous plongez sous la glace, mais après il faut le retrouver, faut retrouver la sortie, c'est ça l'enjeu.
Voilà, donc on fait un trou, alors soit on peut utiliser une tronçonneuse ou une scie à glace, nous à Tignes, on a une école là-bas, et on utilise la scie, donc c'est un grand opinel, et on scie la glace tout simplement, c'est assez rigolo d'ailleurs.
Comme dans les BD, on scie en rond comme ça, là, son morceau de glace.
Voilà, ouais, on s'amuse, on scie, c'est bien parce que c'est propre, c'est écologique.
Le morceau de glace tombe dans l'eau.
Alors, il flotte en fait. Donc, soit on le glisse sous la glace, soit on le ressort et ça fait une sculpture. On s'amuse avec. Et après, voilà. Là, par contre, c'est là où on utilise le fil d'Ariane, donc la corde où on est attaché, et on peut se balader sous la glace.
Mais jusqu'à combien de mètres ?
L'intérêt, c'est vraiment de rester sous la glace. C'est vraiment le plus joli. Et du moment qu'on a la corde, on peut aller où on veut. Parce que de toute façon, on est relié, on ressort quand on le souhaite. Quoi. Ça, c'est pas un souci. Sachant qu'il y a un truc, c'est que on reste quand même à proximité du trou de sortie. Pourquoi ? Parce que la glace que vous allez voir à 5 mètres du trou, c'est la même que vous allez voir à 10, 20 ou 30 mètres. La glace est quand même relativement uniforme. En tout cas, dans les lacs en France, je parle pas forcément du lac Baïkal ou des autres endroits. Mais donc, la priorité, c'est la corde.
Qu'est-ce qu'on voit alors quand on est sous la glace? Vous dites c'est absolument magnifique. On a fait son trou avec sa scie, on a son fil d'Ariane, on est sous la glace, on regarde comme ça et vous voyez quoi? C'est transparent?
Alors c'est la glace a différentes formes, différentes couleurs. Ça va dépendre de justement s'il y a de l'air à l'intérieur, s'il y a de la neige. Enfin bon. Mais en fait imaginez-vous, vous avez un plafond translucide, un peu opaque. Hein, je parle principalement pour les lacs de France. Hein, et vous vous baladez là-dessus. Et en fait, quand on plonge, on a un détendeur. Et on expire de l'air par ce détendeur. Et ces bulles vont se coller au plafond. Et en fait, vont parcourir le plafond. Elles vont se balader. Et on a vraiment l'impression qu'elles jouent avec cette glace. Et c'est un spectacle. On assiste à un spectacle grandiose.
Et vous êtes le créateur de ce spectacle, exactement, d'une certaine façon, avec votre respiration.
Exactement. Et c'est fascinant, c'est beau, et c'est, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est l'émotion visuelle.
Donc ça veut dire que vous n'allez pas vers le fond, vous restez le plus près possible de la glace, c'est ça?
Voilà. Mmh. Alors soit on peut aussi très bien être collé sous la glace pour jouer avec les bulles d'air aussi, hein, on peut s'amuser, ou alors on descend un petit peu, 2, 3, 4 mètres, il n'y a pas besoin de descendre très profondément, parce que vraiment l'intérêt c'est
de garder la lumière, ouais.
Voilà. Mmh. Et quand on descend un petit peu, éventuellement on joue avec les trous qu'on a créés, hein, les trous de sortie, et là on peut, quand il y a par exemple du soleil, ça te fait des rayons du soleil qui descendent, on a vraiment un puits de lumière, et on joue avec ce puits de lumière, on va jouer avec l'élément, et on part vraiment dans un autre monde.
Alban Michon, vous êtes plongeur sous glace, vous êtes un sportif ou un artiste?
Je suis un passionné. sportif, je...
Non,
parce
que ça ressemble à de l'art, à de la danse presque, ces rayons, ouais, ces bulles que vous soufflez. On...
C'est poétique ce que vous nous racontez, ouais, ça c'est sûr.
Mais parce que, oui, c'est poétique, c'est mouvant. Moi, j'ai fait plonger des gens qui ressortaient de leur plongée, ils étaient émus. J'ai vu des gens avec les larmes aux yeux. Donc effectivement, c'est quelque chose de très poétique et d'émouvant. Ouais.
Parce que la beauté est émouvante. Vous vous sentez jamais, pardon avec mes questions prosaïques et anxiogènes, vous vous sentez jamais prisonnier?
Claustrophobe?
Bah oui.
Alors, non, pas vraiment. Non, mais je dirais même pas du tout. Parce que c'est très impressionnant parce que la glace, elle est blanche, hein, en règle générale, avec un peu de neige dessus. Et quand on ouvre le trou, l'eau est noire. Donc on a un contraste qui peut être saisissant, impressionnant, mais en même temps elle attire, cette eau attire. Parce que dès qu'on va s'immerger, on va mettre la tête sous l'eau, là on assiste à, voilà, on est dans un autre monde. Donc on a de l'eau très claire, et là on assiste après à ce paysage, ce plafond, ces bulles d'air, et de suite on a aspiré... Vers un spectacle fabuleux.
Alban Michon, nous avons découvert dans cette émission La Curiosité, le lac Baïkal avec Nicolas Vanier et ses chiens de traîneau. Donc nous avons couru plutôt sur le lac. Avec vous, on va voir l'envers du décor, c'est ça? Vous avez plongé sous la glace du lac Baïkal, c'était comment?
Oui, alors c'était fabuleux parce que déjà l'environnement, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je plongeais ailleurs, on a l'environnement qui est quand même grandiose. Et le lac Baïkal, c'est le plus grand réservoir d'eau douce de la planète. Pratiquement 600 km de long, pratiquement 80 de large.
Il faut un long fil d'Ariane, là. Hein.
Oui, oui, voilà, faut faire des nœuds et les rajouter au bout, les cordes. Hein. Mais, et puis, il y a une histoire aussi, c'est avec Michel Strogoff, Jules Verne, donc voilà, tout ça, c'est... Déjà, on est quelque part, c'est fabuleux. On est en Russie, en Sibérie, quoi. On croise les Russes, c'est particulier. Et le lac Baïkal, ce lac a la particularité d'avoir une glace très épaisse qui peut faire 1 mètre, 1 mètre 20 d'épaisseur et qui est translucide, elle est transparente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vent et il fait très froid. Donc la glace, quand elle se forme, on a une petite pellicule de glace. Et après, comme il fait très froid, il y a peu de neige et comme... De temps en temps, il fait moins froid, donc il neige un petit peu, mais il y a beaucoup de vent. Donc en fait, la neige ne tient pas sur le lac Baïkal. Et quand on plonge dessous, alors là, par contre, pour faire un trou, c'est compliqué. Hein, c'est quand même à peu près 1h30, 2h pour
vous
faire un trou.
Vous faites avec quoi,
hein,
le trou dans le lac?
Alors là,
Baïkal,
on a des copains russes qui sont assez balèzes, ouais, et qui nous aident à faire les trous. Alors ils ont eu un gros pic à glace. Enfin, ils ont une tronçonneuse quand même. Et ils ont des pics à glace et à la fin, en fait, c'est assez rigolo parce que ils sont deux à crier... Il lousse et il tape en même temps sur la glace et la glace craque quand il y a un de ses copains qui saute dessus. Voilà. Ah oui, donc c'est particulier.
Mais ils vous prennent pour des zinzins, les Russes, Alban Michon, quand ils vous voient
Pas du tout.
Avec l'envie d'aller vous balader.
Ils le plongeaient déjà sous le lac Baïkal.
Ils le font, ils ne nous ont pas attendu pour le faire. Ils ont des techniques très, très efficaces également. Et quand on est dessous, alors là, on assiste aussi à un autre spectacle. C'est-à-dire qu'on a, on peut très bien s'allonger sous la glace et puis voir les gens qui vous marchent dessus. Et j'avais mon ami russe, à un moment, il m'a fait rire parce qu'il se met à l'eau, il s'est égaré avec sa voiture et il passe dessous, il regarde sa voiture et il me dit « Ouh là là, elle est un peu sale
!» J'ai une fuite d'huile.
J'ai une fuite d'huile, ouais, voilà. Ouais. Et ça, c'était extraordinaire. C'est fabuleux.
Et est-ce qu'il y a de la vie à Alban Michon sous le lac Baïkal? Est-ce qu'il y a des animaux, des poissons, est-ce qu'on croise un peu de vie?
Et oui, et alors
même par ces températures.
C'est ça. Même dans le monde polaire, on a de la vie. La glace, elle vit, elle bouge. Et de temps en temps, avec le vent ou les courants, les glaces s'entrechoquent et créent un peu comme des plaques tectoniques. Donc on a en surface des crêtes de compression, hein, donc qui se chevauchent, et on a la même chose sous l'eau. Et dans cette glace se cachent des poissons. Il faut savoir que le lac Baïkal, en fait, on a à peu près 1500 espèces animales et 600 espèces végétales. Sur les 600, on a la moitié, ce sont des espèces endémiques au lac Baïkal. Donc on a une
qui n'existe que là.
Exactement. Donc c'est vraiment le lac Baïkal, c'est à faire une fois dans votre vie.
Voilà, et grâce à vous, on vient de partager cette expérience. Notre plongeur sous glace, Alban Michon, nous emmène maintenant un peu plus loin, dans un autre continent très froid, le Groenland, autour et sous les icebergs. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, toujours avec vous.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Alors ce soir dans La Curiosité, on fait extrêmement confiance à notre invité quand même qui nous balade sous toutes les glaces du monde, dans tous les lacs, direction le Groenland maintenant, île du royaume du Danemark, située dans l'océan Atlantique. Qu'est-ce qui vous attire là-bas, Alban Michon?
Alors, moi j'ai eu la chance de pouvoir plonger au pôle Nord, en Sibérie, dans les lacs en France, un peu à droite à gauche, en Finlande aussi, mais comme je disais, en fait, la glace a toujours une histoire à raconter. Et au Groenland, c'est un des endroits, en tout cas, qui débite le plus d'icebergs au monde. Et les icebergs, je ne connaissais pas. Cette glace m'attirait parce que, elle vient d'un glacier, donc elle a toute cette histoire, elle est depuis des milliers d'années.
C'est une vieille glace, c'est ça?
C'est une très vieille glace, bien sûr. Et je me suis toujours posé cette question. J'avais vu de la vie, on en parlait tout à l'heure avec Thomas, mais on avait vu de la vie sous les lacs, mais est-ce qu'il y avait de la vie autour de ces icebergs? Voilà, ça c'était une question que je me posais. Il y avait une deuxième question que je me posais, c'était aussi, et je ne sais pas pourquoi je mettais en doute, mais je me suis dit, mais il paraît que 90% du volume de l'iceberg est immergé. Et j'avais un doute. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir.
C'est pas possible.
Je vais aller mesurer.
Vous disiez, déjà très gros ce qu'on voit au-dessus, c'est pas possible qu'il y ait 90% encore.
Alors j'avais fait l'expérience, hein, avec un verre d'eau, je mets un petit glaçon chez moi, tranquille, quand on voit le pastis et on voit, mais je sais pas pourquoi, je voulais voir ça.
Bon.
Et donc c'est pour ça que le Groenland, qui est relativement aussi facilement accessible, m'a attiré.
Et qui débite des icebergs, comme vous dites.
C'est une machine, en fait,
c'est beaucoup,
ça, ouais. Oui, parce que l'île, en fait, est recouverte à 80% de l'île Antis. C'est la calotte glaciaire du Groenland. Et elle fait pratiquement 3 km d'épaisseur.
Alors, racontez-nous, Alban Michon, votre première plongée, votre première découverte de cet iceberg, votre premier iceberg au Groenland.
Il s'appelait comment?
J'ai pas donné de nom aux icebergs encore, mais non, c'était la première plongée. Alors, ça a été mes plongées les plus difficiles dans le monde polaire. Parce que on est dans un environnement où il y a du courant. Et l'eau n'est pas toujours aussi claire que je l'aurais espéré. Alors, il y a des endroits où c'était très clair, mais au début, c'était relativement difficile. Et je plongeais avec une machine qu'on appelle un recycleur, qui me recyclait mon air. Parce que nous, comme on est parti avec mon ami Vincent Berthet, on est parti à deux en kayak de mer. Donc on a fait 1000 km, donc on pouvait pas prendre beaucoup de matériel, hein, forcément. Donc j'avais cette machine qui s'appelle le recycleur et qui est il faut quand même être un peu concentré sur cette machine parce que, en gros, quand j'expire 16% d'oxygène et je rajoutais manuellement 5% d'oxygène. En gros, si j'en rajoute trop, c'est pas bien. Et si j'en émets pas assez, c'est pas terrible non plus.
Mais vous le faites toutes les 5 minutes, toutes les heures.
J'ai des capteurs qui me disent, tiens, va falloir que tu rajoutes un peu d'oxygène, sinon tu vas tomber en syncope. Donc, fallait que je fasse un peu attention quand même.
Oui, certes. Donc, mais vous êtes deux toujours quand vous plongez?
Alors, mon ami Vincent était en surface faire la sécu.
Il tient le fil d'Ariane, c'est ça?
Alors là, j'avais pas besoin de fil d'Ariane parce qu'en fait, l'iceberg, autour de l'iceberg, oui. c'est la mer.
Ah oui,
c'est
bien
la
sûr.
Mer. Voilà,
bien
donc
sûr.
Là, j'étais pas embêté. Mais donc, j'étais vraiment vigilant sur mon matériel. Mmh. Et puis, je les connaissais pas, les icebergs. C'est-à-dire qu'on m'a toujours dit, attention, ça peut se retourner, un mur de glace peut s'effondrer, etc. Moi, je me suis renseigné quand même, avant de partir.
Oui, vous êtes un aventurier, mais vous êtes raisonnable quand même.
Voilà, on fait très attention.
Vous préparez vos voyages.
Exactement, c'est pratiquement un an et demi de travail avant de partir sur une expédition. Donc, effectivement, il y a beaucoup de travail. Donc, j'étais vigilant, concentré. Et quand j'étais dessous, j'ai été impressionné. Voilà, j'ai été subjugué parce que on a un relief qui descend très profondément, c'est noir au fond et je descends un petit peu pour voir et puis on a toujours envie de continuer mais à un moment il faut s'arrêter et puis et là où je me suis aperçu que 90% du volume de l'iceberg effectivement.
Donc la réponse était.
Donc je confirme. C'est vrai. Des scientifiques, je peux leur dire effectivement, bravo les mecs.
Il avait peut-être vérifié quand même aussi.
Oui, non, sûrement. Mais en tout cas, non, c'était le relief de l'iceberg, c'est un peu comme une balle de golf aussi. Il y a des cupules d'érosion de glace. Et puis on a de temps en temps, on a des murs qui descendent un peu comme des colonnes de glace, comme une cathédrale en fait. Donc c'est vraiment, il y a un relief qui est différent. Et il y a de la vie. Voilà, j'ai croisé aussi de la vie autour de ces icebergs.
Ils sont magnifiques ces icebergs. D'ailleurs, vous publiez un livre Glacéo, un livre de photos et de textes absolument magnifiques. Les photos, on les doit à Andy Parent, c'est ça?
Alors effectivement, c'est ça. Il y a trois grands photographes qui ont accepté de jouer le jeu sur ce livre. Donc il y a Frédéric Basmayous, Mathieu Foulquier et on a aussi Andy Parent. Alors Andy est venu à la fin de cette expédition au Groenland et a ramené des images magnifiques.
C'est époustouflant.
Je suis d'accord.
Ouais, c'est très, très très beau. Il y a des jeux de lumière, il y a des.
Mais alors, il faut décrire les couleurs parce que évidemment à la radio on peut pas les voir. Donc
c'est bleu un iceberg, on dirait.
Oui. C'est bleu, c'est blanc, et puis le paysage toujours pareil. Ce qu'on disait tout à l'heure, on peut avoir du jaune. On a pas mal de choses. Il faut savoir qu'un iceberg, par exemple, la couleur de l'iceberg, s'il est blanc, c'est parce qu'il y a de l'air qui a été enfermé dans la glace. Quand elle est très vive et transparente, c'est parce que elle a été, c'est de la glace qui a fondu, qui a regelé, qui a fondu, qui a regelé. C'est comme ça qu'elle est bleue et transparente.
Mais ça veut dire qu'il y a des bulles d'air qui peuvent avoir, je sais pas, des centaines d'années,
milliers d'années,
des
oui.
milliers d'années.
Oui, parce que l'iceberg, en fait, il se forme. On a la calotte du Groenland, la calotte glaciaire, et on a des glaciers qui descendent jusqu'à la mer. Et quand le glacier arrive à la mer, en fait, la glace, à un moment, il avance toujours. Et la glace touche le fond et à force, se décroche. Et donc, quand on a un gros bloc de glace qui se décroche, ça crée l'iceberg. Et à l'intérieur, la calotte glaciaire fait pratiquement 3000 mètres d'épaisseur, on a forcément l'histoire de notre climat, par exemple, qui est enfoncé et à l'intérieur de notre iceberg.
Les plus grands icebergs du monde, je l'ai appris en lisant votre livre Glacéo, Alban Michon, ce sont les tabulaires. Vous en avez croisé? À quoi ils ressemblent ces plus grands icebergs du monde?
Alors, les icebergs tabulaires, ils se forment quand on a un glacier qui est très 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 large, en fait, voilà. Et c'est tout simplement un iceberg, un grand iceberg rectangulaire. Voilà. Ça, c'est un iceberg tabulaire. Et on n'en croise pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de glaciers, de langues de glace qui descendent sur la mer, mais ceux qui ont une largeur impressionnante, il n'y en a pas tant, en fait, au Groenland.
Au Groenland, vous avez aussi plongé avec des requins. Ils sont particuliers, ces requins du Groenland?
Ils ont une drôle de tête à cause du froid.
Oui, oui, c'est particulier. En fait, il y a un requin qui s'appelle le requin polaire, et en fait, il n'y a pas de dents. enfin presque pas de dents par rapport aux autres cas.
Force de claquer des dents, il les a perdus.
Ouais, c'est pardon. Il a peu de dents en fait, hein, et c'est un requin charognard. Donc il vit dans les eaux très profondes, 200 à 300 mètres de profondeur. Et moi, je l'ai croisé en plongée nuit. Vous allez me prendre pour un fou. Je l'ai croisé en plongée nuit, proche d'un village inuit, et je pense qu'il remontait pour, comme il est charognard, il mange ce qui est en surface.
C'est-à-dire, il mange de l'homme aussi ?
Non,
alors, des carcasses,
voilà, tout ce qui
ou des déchets
ou des choses comme ça. Mmh. Et après, il doit redescendre. Et moi, je l'ai croisé là, dans 10 mètres d'eau. Donc, j'ai passé du temps avec lui. Il faisait à peu près 4 mètres de long. Moi, j'étais tout petit à côté. Et sachant qu'il peut avoir 200, 300 ans. C'est un peu comme les bulles.
C'est intimidant.
Ah ouais, ouais. C'est
un voyage dans le temps.
Oui, c'est ça.
D'une certaine façon.
Le Groenland est un voyage dans le temps. Mm.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Je veux vraiment faire comprendre aux gens pourquoi le monde polaire, pourquoi les plongées sous glace sont fabuleuses.
La curiosité est un vilain défaut.
Regardez comme c'est pas juste extraordinaire là, cette ambiance féerique qu'on retrouve sous la glace.
20h-22h. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Plonger sous la glace, vous pourriez faire ça, Sidonie ?
Vous savez, moi déjà, quand je vais me baigner au lac de Biscarros, je ne peux pas dépasser la zone où j'ai pied. Dès que c'est un peu noir, j'ai peur. Donc, ce que me raconte Alban Michon, ce qu'il nous raconte depuis tout à l'heure, ça m'effraie, quoi. Le trou noir, l'eau noire dont vous parlez, c'est un.
Vous avez des gens comme ça, un peu, qui paniquent un peu et qui viennent vous voir en disant il faut que je réussisse à vaincre cette phobie ou cette peur de l'eau ou de...
Ça nous est arrivé, effectivement, d'avoir des gens en disant je viens, j'ai envie de tester, mais je suis claustrophobe et j'ai peur. Oui, on en a quelques.
Et ils réussissent à y aller quand même.
Oui, parce qu'on prend le temps, parce que et c'est, je pense, Sidonie, effectivement, c'est il faut vaincre cette peur, cette appréhension, parce qu'une fois qu'on met la tête sous l'eau, qu'on s'immerge, voilà, on a ouvert un autre monde, la porte d'un autre monde.
Ouais. Et alors, vous plongez sous la glace, mais comment vous n'avez pas froid ? Comment vous faites ? La combinaison, elle est très épaisse, elle est particulière.
Alors, elle est très particulière. C'est une combinaison, on appelle ça une combinaison étanche, où on est habillé dessous. Donc on a un pull, on a un pantalon, on a les chaussettes et l'eau ne rentre pas.
Donc ça vaut mieux.
Ouais. Alors sauf s'il y a une fuite, hein. Mais
ça vous est déjà arrivé
d'avoir des fuites? Ça m'est déjà arrivé un petit peu, oui, deux trois fois, oui. Mais
ça chatouille quand même.
Bien quand même. Mais ça va.
Parce que l'eau
en fait,
est très
c'est des combinaisons en néoprène que j'utilise. Mmh. C'est du 7 mm en néoprène et c'est relativement chaud. Donc on n'a pas besoin de s'habiller dessous et même si on est un petit peu mouillé, on a quand même relativement chaud. Ouais.
Mmh. Alban Michon, dans le livre de photos que vous publiez, Glacéo, on vous voit par exemple faire du kayak sur un lac en plein whiteout. Vous êtes où ? C'est quoi le whiteout ? En tout cas, je sais que c'est très très blanc, le ciel est blanc, vous êtes blanc, la glace est blanche et ça m'a aussi fait assez peur.
Oui, alors le whiteout, en fait, c'est, si vous voulez, cette photo qu'on voit dans le livre, c'était au Groenland. Et donc on était avec Vincent et on s'est retrouvé dans un jour blanc. En fait, c'est le jour blanc et on perd vraiment tous ses repères. Mais vraiment tout est blanc. Déjà la neige forcément est blanche, mmh. Et donc en plus on a un épais brouillard. On ne sait plus le haut, le bas, la droite. On est vraiment totalement perdu. Et c'est très dangereux parce que il y a eu dans les expéditions polaires des gens qui se sont perdus et qui n'ont jamais retrouvé leur tente à 2 mètres. Ils étaient à 2 mètres de leur tente, ils l'ont jamais retrouvé. Donc c'est quelque chose de vraiment. Il faut s'en méfier et c'est ce qui m'a plu aussi dans ce livre, c'est d'ajouter un abécédaire polaire où on explique quelques termes techniques du monde polaire, justement.
Mais ça veut dire, par exemple, vous étiez sur le canoë kayak au Groenland, c'est ça ? Donc on voit le bout du canoë quand même, quand c'est jour blanc comme ça ?
Ouais, là on avait un petit whiteout, mais effectivement, quand on a un vrai whiteout, on se voit pas à 50 cm. Donc là, on sort pas. On reste dans la tente et on ne bouge pas.
Et quand on est coincé dans un whiteout, c'est quoi la consigne, Alban Michon ? Il faut avancer.
Alors ça dépend si on.
Prier peut-être ?
Alors prier c'est une possibilité. Soit on est en kayak, soit on est dans une tente. Si on est dans une tente, on reste tranquille et puis on lit, hein, et ça c'est pas mal. Mais non, ça dépend. Il faut toujours trouver les solutions au moment où on en a besoin. Pour l'instant,
jamais de mésaventures, vous n'êtes jamais resté coincé dans la glace. Vous êtes un aventurier absolument chanceux, Alban Michon.
Non. Alors oui, effectivement, on est avec Vincent. On s'est retrouvé coincé. On n'a pas pu atteindre la côte. En fait, on avait une barrière de glace qui nous empêchait l'accès à la côte, et on s'est retrouvé vraiment immobilisé dans la glace. Et il était minuit et on avait un petit peu marre. Ça faisait 26 heures qu'on pagayait. Donc on était
au Groenland.
Au Groenland, ouais, en pleine expédition. On était fatigué, on avait froid et donc on s'est regroupé et on a décidé de dormir sur les kayaks en pleine mer. Donc il y avait un peu de houle. Vous imaginez, hein, le vent, la glace qui s'entrechoque, vous au milieu de nulle part. Voilà, donc on a sorti les couvertures de survie, on a mangé deux sachets de lyophilisé, hein. Là on a pris un peu des forces pour passer la nuit, on a bu beaucoup de thé et on a dormi comme on a pu.
Vous avez réussi à dormir?
On a plutôt somnolé, ouais.
Ouais. Parce qu'il y avait les icebergs pas loin?
Ouais, parce que on savait pas où on était et puis on sait pas si la glace ne va pas vous écraser. C'est un peu ça qui m'a toujours un peu envoûté dans la glace, c'est-à-dire que c'est de l'eau, mais c'est une puissance.
Donc ça a l'air inoffensif, mais oui, en fait non. Ouais.
C'est non seulement important pour nous, et en plus, c'est puissant. Ça a fracassé les bateaux, le Titanic.
Oui, bien sûr. Et c'est ce que racontaient d'ailleurs Géraldine Nanon et Philippe Poupon, qu'on a eu dans la curiosité il y a quelques semaines, qui nous racontaient l'une de leurs expéditions dans les terres australes, où leur bateau, Fleur Australe, avait été coincé comme ça, entre un morceau d'iceberg et un morceau de banquise. On retrouvera d'ailleurs demain Géraldine Nanon, puisqu'ils sont en expédition dans des mers beaucoup plus chaudes. Là, ils sont où déjà, Sidonie? Vers les mers des Caraïbes?
Dans la mer turquoise des Caraïbes.
Voilà, c'est plus sympa.
Alban Michon, vous la chassez, cette glace, vous la dévorez des yeux le plus souvent possible. Mais est-ce qu'elle est en voie de disparition?
Alors,
on parle beaucoup du réchauffement,
oui, bien sûr. Alors,
de la planète et du climat.
Moi, je me base d'abord sur les cartes satellites. C'est-à-dire que régulièrement, il y a des cartes satellites des glaces qui sortent et effectivement, chaque année, la glace, le volume de la glace, la superficie de la glace diminue. Bon, ça, c'est véridique. Bon.
Factuel.
Voilà. Donc, oui, elle est, entre guillemets, en danger. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'entre... il y a la COP21, fin d'année, on va parler de tout ça, du climat. Et elle est importante pour nous, parce que ça veut dire que si la totalité de la glace fond, on va avoir 200 à 300 millions de réfugiés climatiques. Ça veut dire que si jamais elle disparaît, on aura un changement des courants marins et océaniques. Ça veut dire que si elle disparaît, on aura ce qu'on appelle le passage du Nord-Ouest qui va s'ouvrir, donc avec des nouvelles voies maritimes qui vont permettre à des bateaux de passer, avec des éventuelles possibilités de pollution. Et puis on a après tout le pétrole, etc. Donc on est en période de mutation et de changement. Donc effectivement, si insignifiante soit-elle, elle est très importante.
Mmh. Est-ce qu'il y a une glace, pour terminer, que vous avez encore envie de découvrir?
Oui.
Laquelle?
Alors, c'est dans un glacier. C'est descendre dans un glacier et accéder à ce qu'on appelle un moulin. Alors un moulin, c'est de l'eau qui descend directement en bas du glacier. Et cette eau-là est à l'état liquide. Elle est à peu près à moins 20 degrés. Elle est à l'état liquide. Et l'eau, elle est translucide, mais elle se balade sous les glaciers, quoi, en fait.
Ben, merci beaucoup. Merci, Alban Michon.
Vous êtes le parrain de la 17e édition du Salon de la Plongée qui aura lieu du 9 au 12 janvier à Paris. Les auditeurs peuvent venir vous rencontrer. Vous allez leur faire vivre une expérience incroyable. Vous allez les faire plonger, c'est ça, sous la glace?
Et effectivement, parce qu'on a deux piscines, dont une polaire. On va pouvoir les emmener en combinaison étanche dans la piscine.
Et à retrouver Glacéo sur votre site internet albanmichon.com. Merci infiniment à vous.
Merci à vous.
Vous écoutez RTL.